Bonjour à tous, toujours content de vous retrouver. Non, ça je l'ai déjà dit. Néanmoins, c'est vraiment, vraiment une joie d'être là. Et le Seigneur m'a mis à cœur pour le BTM ce matin. Ça s'appelle toujours EBTM. Un message de réconfort et d'encouragement. Moi, j'ai toujours vu le BTM comme une église forte, avant-gardiste, qui montrait l'exemple. Je me rappelle, ça fait plusieurs années que je viens aux conventions missionnaires et vraiment, j'étais comme un enfant avec les yeux écarquillés devant les missionnaires. Et c'était énorme pour moi. Et votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, ça a porté du fruit dans ma vie. Et voilà, je vous disais, le BTM, on se dit, ce n'est pas une église qui a forcément besoin d'être encouragée, d'être consolée, rassurée, fortifiée, parce qu'elle est déjà forte. Et pourtant, c'est le Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur, parce que le BTM, comme toutes les églises, elle connaît des souffrances. Et la souffrance, elle prend différentes formes. La souffrance, elle peut venir de l'intérieur. On a tous connu dans les églises des dissensions internes. Je crois qu'il n'y a rien qui nous fait plus mal. La souffrance, elle vient aussi de l'extérieur. On peut être attaqué de l'extérieur. On peut être empêché d'avancer de l'extérieur. L'église, elle peut souffrir quand elle est frappée dans sa chair. Et c'est ça, sans doute, le plus difficile. Alors, oui, l'église, le BTM, est une église conquérante qui avance, mais elle est aussi une église souffrante. Elle connaît ses souffrances. Et je vous laisse dans vos têtes vous remémorer peut-être juste cette dernière année, 2014, toutes les fois où elle a été frappée dans sa chair, frappée dans ses découragements. Et comme je vous disais, moi, je suis qui pour encourager ou exhorter, mais le Seigneur, par contre, lui, il est celui qui peut encourager et exhorter. Et puis, donc le titre de ce message, ce serait simplement « Message pour le BTM » ou bien « Message pour l'Église souffrante ». Et il donne, dans l'Apocalypse, vous savez, il fait un message aux sept églises, si vous voulez prendre avec moi, Apocalypse au chapitre 2. Alors ce que j'aime quand je lis ces messages aux sept églises de l'Apocalypse, nous on va s'attarder sur une des églises qu'on va appeler l'église souffrante, mais en introduisant ces messages aux sept églises, il dit, regardez avec moi chapitre 1 verset 19, à partir du verset 19, écris donc ce que tu as vu, c'est Jésus ici qui apparaît à Jean en vision, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, les anges, donc angelos, un ange ou messager, donc les évêques ou pasteurs, parce qu'il est rare que Dieu écrive aux anges, il s'adresse directement aux anges, par contre Dieu écrit aux hommes, notamment par sa parole. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Et regardez ce qu'il dit juste après, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Je trouve ça très très fort que le Seigneur nous dise qu'en fait il est en train de marcher au milieu des sept églises. Ça veut dire que celui qui ne change pas, eh bien, il y a de fortes raisons de croire que ce matin, il marche au milieu de nous. Et on le sait, il est au milieu de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin forcément de ressentir, ce n'est pas quelque chose qui est forcément palpable, quoique. Mais le Seigneur marche au milieu de nous ce matin et il connaît les cœurs souffrants, il connaît les cœurs brisés et il veut encourager, il veut fortifier et on va s'incliner devant lui. Dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, nous venons d'y lire que tu marches au milieu de nous ce matin. Tu es là, Seigneur. Bien sûr, tu es dans nos cœurs, mais tu marches au milieu des rangs. Tu connais nos cœurs, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins, tu nous connais par cœur, Seigneur, tu connais nos souffrances, nos difficultés, tu connais aussi les péchés que tu aimerais beaucoup que l'on arrête de pratiquer. Seigneur, tu nous visites ce matin et tu veux nous faire du bien, tu veux nous encourager, tu veux nous consoler, tu veux nous encourager à persévérer jusqu'à ton bienheureux retour. Tu veux nous communiquer encore ces forces nécessaires et tu vas le faire ce matin par ton Saint-Esprit et par ta parole. Ô Seigneur, bénis-nous, nous avons besoin de toi et touche nos cœurs ce matin dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on lit cette église souffrante qui va être l'église de Smyrne au chapitre 2 et à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors en introduction, je dirais simplement que ces églises, là, c'est cette église, elles décrivent la condition des 7 églises locales à l'époque où Jean écrivait, mais elles sont aussi un message, soit pour reprendre les églises, soit pour les exhorter, soit pour les encourager. Et ça, c'est un message destiné aux églises de tous les temps. L'église de Smyrne, la ville de Smyrne, c'est Izmir aujourd'hui en Turquie, elle faisait commerce de la myrrhe. Et Smyrne, ça vient de myrrhe, c'est une résine qui lui valut ce nom. Et donc symboliquement, dans la Bible, on sait que la myrrhe, ça va connoter la souffrance. Il y a cette notion de souffrance. En Matthieu, au chapitre 2, verset 11, vous savez, à la naissance de Jésus, les mages, ils vont apporter 3 choses pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et donc on a l'habitude de dire que l'or, c'est le symbole de sa royauté, parce que Jésus-Christ est roi. L'encens, c'est le symbole de sa sacrificature, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Et puis la myrrhe, parce qu'il fallait qu'il passe par la mort, par la souffrance, pour nous accorder la rédemption. Et effectivement, Jésus a souffert pour nous. La myrrhe, c'était, quand elle était mêlée de vin, c'était un calmant, hein, l'analgésique de l'époque, que Jésus a refusé de prendre sur la croix parce qu'il n'a pas refusé de souffrir pour nous. Il devait payer le prix fort pour nos péchés. Marc 15, 23, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et c'est vrai que historiquement, cette église de Smyrne fut une église particulièrement souffrante. Je t'ai regardé un petit peu sur Internet, là. Je fais mes recherches historiques, c'est pratique maintenant. Et donc, on voit que cette église était particulièrement souffrante et on voit aussi son attitude dans la souffrance. Premièrement, on va voir l'attitude de l'église, deuxièmement, l'attitude du pasteur et troisièmement, l'attitude des chrétiens en général. Premièrement, l'attitude de l'église. Cette église souffrante, eh bien, le Seigneur ne lui fait aucun reproche. L'église de Smyrne, le Seigneur ne lui fait aucun reproche. Juste avant, il y avait Éphèse, il lui a dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Ici, Smyrne, il ne lui fait aucun reproche. Et puis il lui dit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie ». J'aime beaucoup ici parce que en disant « Voici ce que dit le premier et le dernier », et c'est Jésus ici qui parle, il est en train encore une fois de se faire Dieu. Dis donc, parce qu'il reprend cette citation d'Ésaïe 44, verset 6, où l'Éternel disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Jésus-Christ est encore une fois en train de proclamer sa divinité, comme il l'avait déjà fait en Jean 10. Hein, il avait dit « Je suis le bon berger » devant un parterre d'Israélites qui connaissaient le psaume 23, où Jésus dit où l'Éternel dit je suis l'Éternel est mon berger. David dit l'Éternel est mon berger. Donc les Israélites savent que le berger c'est l'Éternel. Et Jésus, en Jean 10, il va dire « Je suis le bon berger ». Et il est en train de dire « Je suis Dieu ». Il est en train de dire « Je suis Dieu ». C'est d'ailleurs pour ça que les Juifs vont prendre des pierres pour le lapider. Et ils demandent « Mais pour quelle œuvre me lapidez-vous » Et il leur dit « C'est pas pour une œuvre que nous te lapidons, c'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu ». Et Jésus ici encore, il proclame, on ne peut plus clairement, sa divinité. Et cette église de Smyrne, elle a compris, c'est la première chose, qu'elle ne suivait pas un homme. Elle ne suivait pas un gourou ou un simple prophète. Hein. Aujourd'hui, il y a des religions qui essaient de nous vendre Jésus comme un simple prophète. Non, elle a compris qu'elle suivait Dieu lui-même. Elle ne suit pas une institution religieuse. Elle ne suit pas une dénomination. Elle ne suit pas l'église baptiste ou l'église darbiste ou l'église pentecôtiste ou je ne sais quel iste. Elle a compris qu'elle suit Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et on voit que cette église, eh bien, elle n'est pas matérialiste. Et c'est ça l'attitude de l'église souffrante, elle n'est pas matérialiste. La vraie richesse, elle est spirituelle. Regardez ce qu'il dit, il dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté », entre parenthèses, « bien que tu sois riche ». L'église, elle était pauvre, mais en fait, elle était riche spirituellement. Parce que la vraie richesse, c'est de connaître Dieu. Et c'est l'inverse qui se passe, vous savez, à la fin avec l'église de Laodicée. Elle a dit, elle croit qu'elle est riche, elle s'est enrichie, elle croit qu'elle a besoin de rien, et en fait, le Seigneur, il est à la porte. La vraie richesse, c'est de connaître Dieu. Et il en est de même pour nous, chrétiens. Hein. Et ça qui est intéressant quand on étudie ces lettres aux sept églises, il s'adresse à l'église, mais en s'adressant à l'église, il s'adresse à chacun individuellement à l'intérieur de l'église, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et toutes les bénédictions matérielles ne peuvent nous suffire si on n'a pas trouvé notre satisfaction dans la personne de Jésus-Christ. Regardez 1 Timothée avec moi, 1 Timothée chapitre 6. Remarquez aussi qu'on peut être riche et riche. On peut être riche financièrement, matériellement et riche spirituellement. Ce n'est pas un péché d'être riche, d'avoir de l'argent. Le Seigneur a dit, le riche rencontre le pauvre. Dieu a fait l'un comme l'autre. Ça, c'est en Proverbe chapitre 22, verset 2. Mais il faut comprendre que l'on a tout pleinement en Jésus-Christ. L'avoir lui, le connaître lui, l'aimer lui, être aimé par lui. Et regardez 1 Timothée au chapitre 6 et à partir du verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le Seigneur dit, on ne peut servir Dieu et Mammon. Et en même temps, on voit toute la culture du travail qui est dans la Bible. Hein, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit il nous montre l'exemple, il est nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge de personne et au contraire pour soutenir ceux qui sont démunis. Donc il y a à la fois cette culture du travail, mais à la fois attention à l'amour de l'argent, à cette quête insatiable de toujours, toujours, toujours plus. Et le Seigneur nous demande justement, et dans toute chose, d'avoir une attitude équilibrée. J'aimerais juste vous donner cette illustration que j'ai trouvée sur Internet. Hein. Peut-être vous la connaissez, elle est très intéressante. C'est l'histoire de l'Américain et du Mexicain. Alors, il y a des Américains parmi nous, c'est pas contre les Américains. Ô combien on aime les Américains, ô combien ils sont précieux pour nous. C'est juste en fait pour dire que les Américains, ce sont des bons businessmen. Alors écoutez bien cette illustration. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port ramenant plusieurs tons. L'Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps, » répond le Mexicain. Alors l'Américain de demander « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ?» Alors écoutez bien la réponse. « Je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je passe du temps avec ma femme, je m'accorde de temps en temps une petite sieste, le soir je vais au village voir mes amis, nous nous réjouissons et jouons de la guitare, j'ai une vie bien remplie. » L'Américain l'interrompt. « J'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. » Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour la grande ville, Mexico City, ou peut-être même Los Angeles. Puis peut-être New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. Le Mexicain demande alors, mais combien de temps cela me prendrait-il? 15 à 20 ans, répond le banquier américain. Et après? Eh bien après, c'est là que ça devient intéressant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions, mais après? Ben après, vous pourrez prendre votre retraite. Et écoutez bien ce qu'il dit. Habiter dans un petit village côtier, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un petit peu, passer du temps avec votre femme et passer vos soirées à vous réjouir et à jouer de la guitare avec vos amis. Voilà, j'avais trouvé ça assez rigolo, mais on peut passer du temps à courir après l'argent. Vous savez, avec mon épouse, Johan et moi, ça fait plusieurs années qu'on n'est pas dans une quête de l'argent, mais on est néanmoins accaparé par notre business, parce qu'il faut trouver des solutions pour financer le ministère, etc. Et on passe beaucoup de temps à ça. Et là, en ce moment, on réalise que peut-être parfois, on a été un petit peu trop d'un côté. Et on est en train justement de lâcher du lest. On veut lâcher du lest parce que on ne veut pas passer à côté de l'essentiel. On ne veut pas passer à côté de notre vie de couple. Et le Seigneur nous parle aussi à ce niveau-là. Il y a aussi cet exemple, il y a cette vidéo qui circule sur Internet. Elle est importante. On voit, c'est pas une vidéo chrétienne, hein. On voit des journalistes, des gens qui interviewent des jeunes enfants. Ils sont grands comme ça, je ne suis pas trop spécialiste des enfants. Ils ont 4-5 ans. Et c'est très touchant parce qu'ils leur demandent « Alors, si tu avais des requêtes à faire au Père Noël, qu'est-ce que tu commanderais ?» Alors là, ils sont là, les enfants, avec les yeux merveilleux, alors moi je voudrais la dernière PlayStation ou la dernière Barbie, enfin, ils font toute leur liste et tout ça, d'accord. Et si tu avais quelque chose à demander à papa et maman, qu'est-ce que tu leur demanderais? Spécifiquement à papa et maman. Alors là, on voit les enfants qui réfléchissent et puis ils disent « J'aimerais bien que papa il soit là plus souvent pour jouer avec moi. J'aimerais bien que, voilà, avec maman on puisse aller se promener ou... » Les enfants demandent un peu plus de présence de leurs parents. Et alors là, ceux qui font l'interview, ils disent « Bon, maintenant tu as les deux listes, mais tu as le droit à une seule liste. Laquelle tu choisis? La liste que tu veux donner au Père Noël ou la liste que tu veux donner à tes parents ?» Alors c'est vraiment rigolo parce que les enfants, ils sont là, ils sont très intelligents, ils réfléchissent, le dilemme quoi. Et ils sont là et puis on les voit les uns après les autres, ils disent « La liste pour papa et maman. La liste pour papa et maman. La liste pour papa et maman. » Et voilà, c'est pour nous dire attention à ne pas passer à côté de l'essentiel. Ça, c'était la première chose. L'Église qui n'était pas matérialiste. La deuxième chose que l'on voit, c'est un pasteur digne dans la souffrance. Parce que historiquement, le disciple de Jean, c'était Polycarpe. Et il a été extrêmement digne dans la souffrance. Quand je dis pasteur, je dis famille pastorale. Et le pasteur Polycarpe, donc c'est là que j'ai fait un petit peu de recherche historique sur Internet. Il est mort en l'an 167 sous Marc Aurèle. Il y a une succession d'empereurs romains. Et il est mort sous Marc Aurèle. Et voici le témoignage rapporté de son martyr. On le menaça d'abord d'être livré au lion. Ah, vous pourrez vérifier tout ça, hein. Il y avait des historiens donc, qui écrivaient à l'époque et qui rapportaient les faits. On le menaça d'abord d'être livré au lion. Polycarpe regarda toute cette foule de païens impies dans le stade. Le proconsul insistait et disait « Aie pitié de tes cheveux blancs, jure et je te laisse aller. Maudis le Christ !» Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers. » Vous voyez, c'était un vieillard, hein. Bien, disciple de l'apôtre Jean, et puis là on est déjà en l'an 167. Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer le nom du roi qui m'a sauvé? Le proconsul revient à la charge. Je te fais consumer par le feu puisque tu méprises les bêtes si tu ne te rétractes pas. Polycarpe dit, tu me menaces d'un feu qui brûle une heure et qui s'éteint vite. C'est que tu ignores le feu du jugement à venir et du châtiment éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tardes-tu? Traite-moi comme tu voudras. En disant cela et bien d'autres choses, Polycarpe était plein d'assurance et de joie. Son visage resplendissait de la grâce divine. Non seulement il n'était ni ébranlé, ni troublé par ce qu'on lui disait, mais c'est le proconsul, au contraire, qui était frappé de stupeur. Vous voyez, cette dignité du pasteur dans sa souffrance. Il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. En ce moment, à La Rochelle, le jeudi soir, je fais les études sur l'Épître aux Philippiens. Et en Philippiens 2,14, il y a écrit « Faites toutes choses sans murmure ». Et quand on commence à creuser ce texte, c'est vraiment lourd de sens. Faites toutes choses sans murmure. Parce que à quoi ça nous rapporte? Ça nous rapporte, quand on fait les parallèles, eh bien, au murmure des Israélites dans le désert, qui se rebellaient contre la volonté de Dieu dans leur vie, et le Seigneur les châtiait par rapport à leur murmure. Et c'est difficile de ne pas murmurer contre Dieu. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais parfois c'est difficile devant la souffrance ou devant ces sensations d'injustice. À tel point que Jacques va nous dire que celui qui arrive à tenir sa langue en bride sans broncher, celui-là est un homme parfait. Mais nous, on sait qu'on n'atteindra jamais la perfection. On sait que ça, ce sera simplement au ciel. Simplement de là où on est, au point où nous en sommes. Eh bien, essayons de reconnaître la souveraineté de Dieu, de l'accepter dans tout ce qui nous arrive. Et Polycarpe, ça voudrait dire, donc littéralement, poly, plusieurs, beaucoup. Et carpe, il y a cette connotation de fruit. Par exemple, vous vous souvenez, il y avait ce poème de Horace, Carpe Diem. Et après, ça avait été repris d'ailleurs dans Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. Et Carpe Diem, ça voudrait dire, donc, fais fructifier le jour, fructifie le jour. Et donc, Polycarpe, ça voudrait dire beaucoup de fruits. Et dans sa dignité, eh bien, combien Polycarpe a porté du fruit? Parce que la Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ce qu'on voyait, c'est que plus il persécutait les chrétiens, plus il les mettait à mort, et plus il y avait de chrétiens. Parce qu'il y avait cette dignité des chrétiens dans la souffrance. Ça a été jusqu'à, même après Dioclétien, il y a eu, c'était Constantin, ça a fini que l'empereur même a opté pour le christianisme parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter. Et je crois qu'une des clés pour ne pas murmurer, écoutez bien ça, parce que pour moi, c'est un des éléments clés du message, c'est même une des choses clés dans ma vie. J'ai lu ce livre extraordinaire, Verdoyant malgré la sécheresse. C'était des missionnaires, la femme était australienne, je crois, et le mari américain. C'était juste avant qu'en Chine, le rideau communiste ne tombe. Et ils sont arrivés là-bas, et comme missionnaires, et ils voulaient distribuer des traités, ils voulaient enseigner dans les églises de maison, ils voulaient implanter, etc. Et ils ont été empêchés. Les derniers missionnaires américains ont réussi à partir, et eux, ils sont restés bloqués. Interdiction de distribuer des traités, interdiction de prêcher dans les églises, bloqués en tout et partout, et ça a duré 2 ans. 2 ans de cauchemar, on va dire. Et là, il y a le doute qui s'est installé. Et vous savez, quand le doute vient, c'est là qu'on peut commencer à murmurer et à broncher. Et avec, vous savez, les fameux « si » et les fameux « pourquoi ». Seigneur, si tu savais que ça allait se passer comme ça, pourquoi tu as permis qu'on réussisse à vendre tous nos meubles, notre maison aux États-Unis ? Si tu savais qu'on n'allait pas réussir à évangéliser, pourquoi tu as permis que finalement tout se passe bien, qu'on ait les papiers, etc., etc. Vous savez, c'est si et c'est pourquoi que l'on pose à Dieu. Et pourtant, à la fin du texte, on voit le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que, je cite un petit peu là, ils appellent ça la foi qui passe au creuset. Et elle s'appelait Wilda et elle dit, pour elle, la plus grosse épreuve était le doute. Leur venue avait-elle vraiment été voulue par Dieu ? Ou s'était-il trompé ? C'est intéressant ça, parce que parfois on prend des mauvaises décisions. Mais Dieu, il est au-dessus de nos mauvaises décisions. Hein, les desseins des hommes sont en dessous des desseins de Dieu. Dieu contrôle absolument toute chose, même nos mauvaises décisions. Dieu est au-dessus et il va nous apprendre au travers de ces mauvaises décisions. Mais voilà leur question. Leur venue avait-elle vraiment été voulue par Dieu ou s'était-il trompé ? Était-il dans les mains de Dieu ou dans celles du diable ? C'est l'antique problème de ce qu'on appelle les causes secondes. Si j'avais pas pris telle décision, j'en serais pas là. Après, elle continue en disant, quand un enfant de Dieu se trompe dans une décision, sort-il du cercle de l'amour de Dieu ? Dieu cesse-t-il de diriger sa vie ? Le chrétien se met-il alors entre les mains de Satan qui peut le torturer à son gré ? Ces questions de toujours se poseront à tout chrétien sincère qui cherche à suivre le Seigneur. Je répète, quand un enfant de Dieu se trompe dans une décision, sort-il du cercle de l'amour de Dieu ? Dieu cesse-t-il de diriger sa vie ? Se met-il alors entre les mains de Satan qui peut le torturer à son gré ? Ces questions de toujours se poseront à tout chrétien sincère qui cherche à suivre le Seigneur. Et puis elle se souvient d'un traité qu'elle avait lu, parce qu'il y avait ce fameux-ci. Et moi, avec mon épouse, ça m'arrive des fois de me dire, mais si on n'avait pas pris cette décision, on n'en serait pas là. Est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu ? Mais Dieu est plus souverain que ce que l'on comprend. La souveraineté de Dieu est absolue. Et elle prend un traité, et le traité, il disait, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça y est, avec Marthe, Marie et Lazare. En fait, il aurait pu être présent, le Seigneur, parce qu'il n'était pas loin. Mais il n'était pas présent. Il connaissait tout de leur épreuve, et cependant, il laissa mourir Lazare. Pour les deux sœurs, c'était affreux. Je pense que dans toute vie, il y a ainsi une chose, une circonstance que Dieu aurait pu, s'il l'avait voulu, faire autrement. Mais il est tout puissant, et cependant, il a permis que ceci soit posé. Et à ce « si », le Seigneur répond par un autre « si ». Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui répond par un autre « si ». Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu me fais confiance, si tu acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ruth 3:18, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Mais je trouve ça extraordinaire quand on arrive à comprendre ça. Vous vous souvenez dans Actes, au chapitre 27, quand Paul, il va pour être emprisonné à Rome, il est sur ce bateau, le bateau fait naufrage, et puis juste dans le chapitre précédent, ils disent, les autorités romaines disent, mais en fait, si cet homme n'en avait appelé à César, il aurait pu être relâché. Et moi, je serais Paul, je me dirais, mais si j'en avais pas appelé à César, mais pourquoi j'en ai appelé à César? J'aurais pu continuer mon ministère. J'aurais pu... Et pourtant, le Seigneur était souverain dans cette décision, parce qu'il voulait qu'il aille témoigner à César. La souveraineté de Dieu, elle est vraiment absolue. Alors, est-ce qu'il y a des « si » dans votre vie? Si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça. Parfois aussi, on va blâmer Dieu à cause de nos propres péchés. Ça m'est arrivé de prendre une mauvaise décision. Après, je me retrouve dans une situation compliquée. Seigneur, mais qu'est-ce que t'attends pour me délivrer? Pourquoi tu nous laisses dans la souffrance? Voilà, pourquoi? Et dans Lamentation de Jérémie, il y avait écrit en 3:39, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» Et parfois, on prend des mauvaises décisions et après, on va blâmer Dieu. Et alors, j'avais dit à Johanna, dans cette mauvaise décision, j'avais dit, en fait, le responsable, là, c'est surtout moi. Et donc, on s'est incliné dans la prière et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais voilà, en disant à Johanna que Dieu est au-dessus de cela, que nos desseins n'annulent pas les desseins de Dieu et que sa souveraineté englobe tout cela et qu'il va, il a des plans parfaits par rapport à cela. Ça, c'était la deuxième chose. Un pasteur digne dans la souffrance. Et la troisième chose de cette église souffrante, ce sont des chrétiens persévérants dans la souffrance. Le Seigneur nous a promis qu'on aurait des souffrances quand même. Hein. Il nous a bien prévenus. Hein. On n'est pas encore au ciel. Hein. Parfois, on pourrait se dire, bon, ben maintenant je suis chrétien, tout va bien aller. Mais non, le Seigneur, il a dit, l'endroit où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, ce n'est pas encore maintenant. C'est à venir, mais ce n'est pas maintenant. Il a dit, ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et combien ils le furent? Là, dans le texte, il dit, ils étaient persécutés par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et qui sont même une synagogue de Satan, dans le texte, là, en Apocalypse chapitre 2. Et on sait que, de la même manière qu'il y avait de faux chrétiens, des faux docteurs, il y avait aussi de faux juifs. Et le Seigneur va s'adresser à eux en Romains au chapitre 2. Il leur dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui est censé être la lumière de Dieu dans le monde, et en fin de compte, tu blasphèmes, et à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Et on sait que, historiquement, effectivement, ces juifs ont fait l'œuvre, quelque part, de Satan, en aidant les païens à livrer les chrétiens. Quand on parcourt le livre des Actes des Apôtres, on voit combien de fois l'apôtre Paul a été particulièrement persécuté par ses frères israélites. Ils ont contribué aussi, dans notre passage là, à la mort sanglante de Polycarpe, puisque les combats d'animaux étaient terminés. Les combats de fauves étaient clos, donc ils se sont empressés d'aller ramasser le bois pour le bûcher, pour que Polycarpe soit brûlé. Alors, quelle application on peut faire de cela aujourd'hui? Moi, je pense que on peut aussi terriblement souffrir de nos co-religionnaires. Hein, il y a des gens parfois qui s'autoproclament, je crois que c'est une autoproclamation, garant ou gardien de la saine doctrine transmise au sein une fois pour toutes. Et si tu déroges à la règle, eh bien, tu te fais persécuter, tu te fais mettre à mort, parce que la Bible dit qu'on peut tuer avec les mots, on peut tuer avec les lettres, on peut tuer en traitant quelqu'un d'hérétique parce qu'il n'est pas d'accord sur une opinion. Et Et parfois, ça, c'est notre lot, c'est pour ça que ça nous fait beaucoup souffrir. Sur ces sujets-là, vous les connaissez, je n'ai même pas besoin de parler de sujets polémiques qui font que les chrétiens s'entre-déchirent. Et ce faisant, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce sont des chrétiens, mais c'est l'œuvre du diable qui est faite. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez avec moi Jacques. Ça, c'est terrible. Je vous disais, quand des chrétiens se retournent contre vous, pourtant on était frères, on s'aimait de tout notre cœur, et quand tout d'un coup ils se retournent contre vous, mais c'est terrible la souffrance. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Je parlais avec une sœur hier, et qui me disait, dans mon église, on n'avait jamais eu de problème, et bien là, ça y est, tout d'un coup, il y a eu des problèmes. Et c'est terrible comment ça nous fait souffrir. Et on passe tous tôt ou tard par là, malheureusement, mais ça fait partie aussi de la souveraineté de Dieu, qui veut nous affermir, qui veut nous donner de grandir encore plus dans l'amour. Regardez Jacques chapitre 3, verset 14. Il s'adresse aux chrétiens. Et il leur dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est... réquisitoire terrible, terrestre, charnel et diabolique. Et il s'adresse aux chrétiens. Elle est terrestre, charnel et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Je trouve ça terrible. Terrible. Vous savez, toujours dans quand Paul est prisonnier à Rome, il écrit aux Philippiens, et il va leur dire ici, les responsables de l'église de Rome, en fait, ils prêchent, mais dans le but de me susciter des afflictions, et dans un esprit de dispute. Et il dit, qu'importe. Christ est prêché, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Leur problème, ce n'était pas la théologie, leur problème, c'était les intentions. Et combien on peut voir cela aussi. Parfois, on est littéralement mis à mort parce que sur telle opinion, sur tel sujet de doctrine qui est déjà débattu depuis des siècles et des siècles, on est encore en train de s'entre-déchirer. Et les fruits de cela, eh bien, c'est le désordre, les disputes et toutes sortes de mauvaises actions. Et donc, pour savoir si on est dans la vérité, parce qu'il faut toujours rester humble et savoir si, est-ce que c'est pas moi qui est en train de mettre le désordre, savoir quels sont les fruits de mes actions. Et c'est comme ça que le Seigneur nous éprouve. Littéralement, ils allaient avoir une tribulation de 10 jours. Et cette église-là, historiquement, on peut faire aussi l'application qu'elle connaîtra une période de persécution sous différents empereurs romains, 10 empereurs romains. Et cette persécution à outrance, elle a duré plus de 200 ans. À cette période de l'Église, les chrétiens étaient brûlés, pendus, battus, crucifiés, jetés aux fauves, torturés jusqu'à la mort. Et ça, c'est ce qui nous est rapporté aussi en hébreu, chapitre 11, chapitre 12. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, cette persévérance dans la souffrance, et c'est pour ça que je m'adresse à l'EBTM, à l'Église souffrante, pour vous dire de vous encourager à persévérer. Persévérer jusqu'à la mort, parce que c'est ce qui nous le dit dans le texte là. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et au final, la mort, finalement, c'était un soulagement pour eux, parce qu'elle mettait fin aux souffrances les plus atroces. Et ces chrétiens, eh bien, ils tenaient ferme jusqu'à la fin, parce qu'ils avaient justement trouvé toute cette possession, tout ce bonheur en Jésus-Christ. Et la mort, c'était comme Paul pour eux, c'était un gain, puisque leur vie, c'était Christ. Et quand ils allaient se retrouver au ciel, ils allaient se retrouver avec le Seigneur. Peu importe ce qui leur arrivait, ils avaient l'assurance d'aller au ciel, ce qui de loin est le meilleur. Et tout à l'heure, on disait que cette église, elle n'était pas matérialiste. Les chrétiens ne passaient pas leur temps à chercher, à être en quête insatiable de l'argent. Et vous vous souviendrez peut-être, pour ceux qui avaient assisté à cette convention, il y avait un pasteur là qui était prof d'économie. Et il avait pris ce passage là, prenez avec moi, 2 Corinthiens, chapitre 4. Si on est tenté de vouloir s'enrichir à tout prix, de vouloir toujours, toujours plus, eh bien, voici le meilleur moyen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions... » C'est Paul qui dit ça, hein. Paul, vous savez combien il a souffert? Il appelle ça « nos légères afflictions ». Du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et ce pasteur qui était prof d'économie, il avait dit, vous savez, on a ici le meilleur retour sur investissement au monde. Souffrance endurée pour le Seigneur. Dignement pour le Seigneur, quelles que soient nos souffrances, produit un poids éternel de gloire. Quand on va voir ce poids éternel de gloire, j'exagère un peu, mais presque on se serait dit « Ah ben j'aurais même dû souffrir encore plus » quand je vois tout ce que ça m'a rapporté. J'exagère. Mais voilà, meilleur retour sur investissement au monde, souffrance endurée en glorifiant le Seigneur, poids éternel de gloire. On parlait du fait de chercher à s'enrichir. Voyez, voilà le moyen, le meilleur moyen de s'enrichir. En vivant pour le Seigneur, en souffrant pour le Seigneur. En vivre pour le Seigneur, c'est pas simplement faire la présidence, faire l'école du dimanche, faire la musique. C'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est par toutes sortes de choses du quotidien, s'occuper, voilà, premièrement des choses essentielles. C'est cela, servir le Seigneur et s'acquérir un poids éternel de gloire. Conclusion. Pasteur, famille pastorale, est-ce que tu connais des souffrances? Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que bientôt le Seigneur va te donner la couronne de vie. Mon frère, ma sœur, as-tu des combats, des souffrances? Persévère jusqu'à la mort. Des fois, on est fatigué. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, des fois, je suis fatigué. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Renouvelle ma force aujourd'hui jusqu'à ton bienheureux retour. EBTM, tu as des combats, des souffrances. Persévère jusqu'à la mort. Au vainqueur, verset 11, la couronne de vie. Ils n'auront pas à souffrir la deuxième mort. Et Jacques nous dit, écoutez bien, je termine avec ces deux versets, « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et Paul dira à la fin de sa vie, prenez avec moi 2 Timothée, chapitre 4, l'apôtre Paul, il est donc en prison à Rome sous Néron, un empereur particulièrement sanguinaire. Et il sait qu'il va mourir. Ce sont ses dernières paroles, selon l'historien Eusèbe, puisque Paul sera décapité en 67. Et regardez ce qu'il dit. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. L'enseignement de Smyrne pour nous, c'est cette notion de persévérance pour Christ, malgré les souffrances. C'est cette notion de persévérance des saints, avec cette promesse certaine. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais accompagnées de cette promesse aussi. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que, comme nous le disions tout à l'heure, tu es là, notre Dieu. Et ce matin, tu, à cause de ta parole, à cause de ton esprit, tu as parlé au cœur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, que l'on puisse y prendre garde. Seigneur, je prie pour l'Église ici. Tu connais le fait qu'elle soit un exemple, mais tu sais aussi qu'elle connaît des souffrances. Et je prie, Seigneur, que tu la fortifies. Je prie que tu la consoles de ses afflictions. Je prie que tu la renouvelles. Je prie que tu l'encourages, Seigneur. Merci pour les polycarpes. Merci pour les beaucoup de fruits qu'elles portent, Seigneur, dans nos vies à tous. Seigneur, merci parce que leur travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu relèves les affligés. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à nous concentrer sur les choses essentielles, sur les choses qui te glorifient. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de t'aimer, de te servir, de vivre fidèlement à tes préceptes. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette sagesse avec nos frères et sœurs en Christ, cette sagesse qui vient d'en haut, pas celle qui est terrestre, charnelle et diabolique, mais cette sagesse qui vient d'en haut, qui est conciliante, qui cherche la paix. Et Seigneur, je te remercie de nous faire croître spirituellement. Merci Seigneur de donner du discernement aux uns et aux autres. Et Seigneur, encore, glorifie ton nom parmi nous. Et nous sommes dans la joie parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Et je prie que s'il y a quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas, qui n'a pas encore fait la paix avec toi, et qui est en route pour connaître cette seconde mort, la perdition éternelle, eh bien je prie Seigneur qu'il puisse se tourner vers toi, placer sa foi et sa confiance en toi, afin que tu le sauves, Seigneur notre Dieu. Agis dans les cœurs, Père éternel, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.